Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Sylvain qui travaille sur la route, tu vois ça souvent, limite. Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent des limites? C'est jamais assez vite, hein? Donc, on est vraiment un peu tiraillé, chaque personne, face aux limites. On aime qu'il y ait des limites, mais ça dépend de quoi? Les limites, dans la société, si on entend surtout la nouvelle génération, ça semble être un vieux concept. On veut pas des limites, on veut pas être restreint, on veut la liberté. On veut faire ce qu'on veut comme ça nous plaît, puis quand on le veut. On est témoin d'une libération au niveau de la sexualité. J'ai 57 ans, puis on se considère jamais vieux. Mais quand je regarde ce que je vois au niveau de sexualité, des fois, là, je dis, écoute, je suis un gars assez ouvert, mais là, je me trouve vieux. Je dis, et bien des fois, l'idée, tu sais, je pensais jamais assister à une société qui adopte telle valeur qui va aussi loin. Donc, on voit qu'au niveau de sexualité, il n'y a plus aucune limite, hein, sky's the limit. En même temps, en matière de sexualité, j'ose dire qu'on n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant parlé du respect des limites, avec les scandales, hein, de M. Roson ou Weinstein aux États-Unis, face au harcèlement, aux gestes déplacés, aux attouchements, aux propos offensants et encore plus en face au viol, il y a une recrudescence pour dire « Wow, minute, tu n'as pas le droit d'aller plus loin que ça et c'est une très bonne chose. » Donc, d'une façon marquée, la société a affirmé haut et fort qui a des limites à respecter. Et à ces hommes, la plupart du temps, c'est des hommes grossiers puis qui se permettent n'importe quoi. On leur dit, il t'est pas permis. Si dans le passé, il y a personne qui a rien dit, ben maintenant, il ne t'est plus permis. Un message fort et clair. On a différentes approches personnellement face aux limites. D'un côté, on veut plus de limites, hein? On n'en veut pas de limites. Puis d'un autre côté, on reconnaît le bienfait des limites. On veut les faire respecter. Face à mon voisin, face à l'autre, face à mon prochain, moi, je veux des limites pour lui. Mais moi, dans le fond, j'en ai pas vraiment besoin. Je veux qu'on applique sévèrement aux autres la règle de l'alcool au volant plus que 0.8, hein. Et je suis vraiment des fois scandalisé en lisant dans le journal, là, c'est la troisième fois qu'il se fait prendre, qu'il y a un accident en état d'ébriété. Il y avait trois fois la mesure, 0.24, etc. C'est des histoires d'horreur. Et là, il y a un sentiment d'indignation. Ils ne respectent pas la limite et on veut faire appliquer la limite. Mais moi, si je roule à 70 dans une zone de 50, comme j'ai fait en m'en venant, là, j'ai des beaux petits rangs, puis on se promène, puis il n'y a personne. Moi, est-ce que j'ai besoin d'une limite? Ben non, je suis raisonnable, puis je conduis bien, donc c'est pour moi, c'est pas nécessaire, je suis pas dangereux. Je veux qu'on poursuive en justice tous ces millionnaires et surtout milliardaires qui ne payent pas d'impôts, hein? L'évasion dans les paradis fiscaux, c'est un vrai scandale. Eux autres, je veux qu'on les attrape et qu'on les fasse payer. Mais quand moi, je fais mon rapport d'impôts, moi qui gagne si peu comme vous, qu'est-ce qu'on veut que le ministère du Revenu ou au provincial, au fédéral, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent envers nous? On veut qu'ils soient, qu'ils nous ordonnent, tu sais, puis on veut qu'ils soient un peu tolérants. Écoute, prends-toi-en aux riches, là, arrête de vouloir me renvoyer des lettres puis dire une correction, puis tu vas nous repayer ça. Puis... Les limites, oui, pour les autres, mais pour moi, pas nécessaire. Je suis raisonnable, je fais la part des choses. D'une façon générale, on peut voir que le respect des limites est une bonne chose. Ça assure la protection et la sécurité d'une société et de chaque individu. On entend souvent le dicton qui dit « la liberté de l'un finit où les droits de l'autre commencent ». Et c'est tout à fait vrai. Il y a une ligne à tracer. Il y a une limite, il y a un point où on ne doit pas aller plus loin. C'est vrai dans la société, c'est vrai dans une famille, et c'est encore plus vrai face à notre Dieu. Pourtant, dans la vie chrétienne, le mot « limite » peut sembler limitatif. Ça nous empêche, ça nous brime même. Et l'adversaire peut vraiment jouer là-dessus. On a besoin de voir que les limites établies par Dieu, par la parole, c'est une bénédiction et non pas une malédiction. La première limite qui a été établie par toute, la première limite de toute l'histoire de l'humanité, au début, à la création, avant même la chute, imaginez, il y avait aucun péché, il n'y avait pas la nature pécheresse en communion avec Dieu. Et Dieu avait établi une toute petite limite, insignifiante restriction, j'oserais dire. Tu vas manger de tous les arbres du jardin. Tu vas manger du fruit de tous les arbres du jardin. Et selon moi, il n'y en avait pas trois, quatre, cinq, là. Dans la diversité, dans la beauté de Dieu, il devait en avoir des dizaines, sinon des centaines. Tu vas en manger de tous, sauf de un. Et notre couple, Adam et Ève, bénéficiaient d'une liberté incroyable, sauf une seule règle. Et on regarde ça et on dit, il y avait juste à faire confiance à Dieu, s'abandonner à la bonté de Dieu. Imaginez que dans votre vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf une chose. Il y a juste une chose dans un domaine que Dieu te dit, une toute petite chose, celle-là, tu ne peux pas la faire. Malgré l'absence de péché qui n'était pas encore entré dans le monde, Adam et Ève ont enfreint la règle, outrepassé la limite. Il y avait seulement qu'à faire un petit pas de confiance, un petit pas d'humilité, d'accepter les voies de Dieu. Adam et Ève ont été les premiers à traverser la ligne. L'homme, dès sa création et bien plus après sa transgression, a voulu croire qu'il peut enfreindre les règles. Il peut repousser les limites et penser qu'il n'y aura pas de conséquences. L'homme veut être libre, mais les limites nous assurent de profiter de cette liberté. Comment on voit les limites? Donc, Adam et Ève, la première limite. Deuxième point, on veut voir On aurait pu prendre beaucoup de domaines. On aurait pu prendre l'argent, on aurait pu prendre le travail, le respect des autorités. Mais juste, on va voir un peu qu'est-ce que vient faire les limites au niveau de la sexualité et d'une façon large toute la vie de couple. La parole dit plusieurs choses sur la sexualité. Il y a des limites, hein? Il y a un cadre dans lequel on est sécurisé, puis Dieu sait ce qui est bon pour nous. Fait, Dieu, dans sa parole, d'une façon générale, a dit, « Tu ne répudieras pas ta femme, tu ne te sépareras pas, tu ne te divorceras pas, tu ne commettras pas d'adultère ni d'impudicité. » Et à la fin, dans le livre aux Hébreux, il est dit que le lit conjugal soit honoré de tous, car Dieu va juger les adultères et les impudiques. Donc, Dieu, le Créateur, et spécialement notre Jésus, qui est le chef de l'Église, en pensant à ses enfants, en pensant à ceux qui sont ses disciples, a ajouté dans les Épîtres cette phrase-là, que le lit conjugal soit honoré de tous. Dieu est celui qui a créé l'homme. Dieu est celui qui a donné la femme. Il a donné la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Et c'est une très bonne chose. Moi, je crois que c'est une des plus belles choses que Dieu a créées. Hein? Toute la moitié de toutes les chansons qui existent dans le monde, ils parlent de quoi? Ils parlent de l'amour. Ils parlent de l'amour entre un homme et une femme. Dieu a établi des limites qui peuvent sembler contraignantes, qui nous empêchent de profiter de la vie au maximum, mais c'est tout à fait faux. Les limites de Dieu sont là, sont bonnes. Les limites de Dieu sont des murs de protection pour nous garder à l'intérieur de l'espace où on peut évoluer en goûtant, en profitant de tout ce que Dieu a de bon pour nous. Et quand on veut sortir de ces limites-là, là, les problèmes commencent. Un qui a sorti, on aurait pu prendre son fils, hein? David. David est un bon exemple des conséquences néfastes de ne pas respecter les limites. S'il avait vécu du temps de Jean-Baptiste, s'il aurait pu profiter des conseils de Jean-Baptiste, il aurait dû entendre la petite voix que Jean-Baptiste a dit. Hein? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à Hérode? « Tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. » Il y a une limite que tu ne peux pas franchir. « Tu ne peux pas avoir la femme de ton prochain. » Est-ce que David manquait d'épouse? Est-ce qu'il manquait de femme? Non. Il y avait quelques épouses qui étaient ses stédées. Hein? Dans la parole, on voit qu'il y en avait au moins trois qui étaient ses femmes, puis pas qui sont décédées, les trois en même temps. En plus de ça, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait combien de concubines? Il y avait, ça c'est son fils. L'autre c'est 700 plus 300, il était proche de 1000, Salomon. Mais David, il y avait 10 concubines. La parole, elle disait quoi? Dès la création, l'homme s'attachera à sa femme, à une femme. Mais Dieu, il semblait que Dieu travaille d'une façon progressive. Hein? Il y avait un plan, puis l'accomplissement total de son plan, c'est en Jésus. Donc là, il y a des choses que Dieu tolérait, mais il est en train de bâtir l'humanité, de bâtir les principes. Fait que Dieu n'a jamais reproché à David d'avoir 3-4 femmes puis 10 concubines. Mais tout à coup, en étant habitué d'enfreindre la règle originale, David a voulu la femme d'Uri. Uri, son fidèle soldat, serviteur du roi dans l'âme de la serviteur de la nation juive. David qui fait tuer Uri pour cacher le fait que la femme d'Uri est enceinte. Et après sa faute, la parole de Nathan s'est accomplie dans la vie de David. Hein? Nathan était venu le voir, puis il dit, vous connaissez l'histoire, hein? Il y a un homme qui avait 100 brebis, puis il y en a un qui avait juste une brebis, puis il est allé prendre la brebis de l'autre, puis cet homme mérite la mort que David a dit. Et Nathan lui a dit, tu es cet homme. Et Nathan lui a dit, le malheur ne s'éloignera point de ta maison. Tout ça parce qu'il a enfreint la règle. Tout ça parce qu'il a franchi la limite. Il a pensé qu'il pouvait, que ce n'était pas si grave. Quels sont vos combats? Quelles sont vos tentations? Dans quel domaine est-ce que vous dites, moi là, au niveau financier, hey, quand je fais mon rapport d'impôt ou quand j'administre mes finances, ça me fait tellement mal au cœur, ça m'arrache le cœur que je pense que je peux. Au travail, est-ce que vous pensez que votre employeur qui ne vous paye pas suffisamment puis qui abuse un peu de vous, regarde, c'est rien que la justice si je compense de différentes façons. Quels sont les domaines dans lesquels vous dites, Seigneur, ta parole me dit que la limite pour profiter de la vie, être heureux, avoir un cœur léger, puis profiter de tes bénédictions, ta parole me dit que la limite est là, mais moi, je crois que je peux me permettre. Je peux à l'occasion. Je peux franchir la ligne que tu as établie parce que cette ligne-là, elle me rend malheureuse, elle m'empêche, je me sens bloqué. Dans notre vie chrétienne, on fait affaire avec notre Dieu. On sait que l'ennemi des croyants est là, le tentateur. Et qu'est-ce que le tentateur veut faire quand Dieu établit des choses avec Adam et Ève? Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'adversaire est venu, il a commencé à dire, es-tu sûr que Dieu a vraiment dit ça? Puis Satan avait raison en partie, dans le sens qu'il n'allait pas mourir subitement, physiquement, mais la mort spirituelle, elle était bien réelle. Donc, on a besoin de penser avant d'être dans la situation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les limites de la parole de Dieu? Quelle approche on a? Quelle est notre stratégie? Quelles sont nos croyances profondes? Est-ce que vous pensez que tout le monde vous a empêché de faire ce que vous voulez dans votre enfance, dans votre vie, puis que là, vous venez au Seigneur, oui, vous êtes sauvés, vous êtes contents de connaître Jésus, mais regarde, Jésus veut encore m'empêcher de faire ce que je veux. On a besoin de décider à l'avance. On a besoin, par la foi et en combattant, de dire à Jésus, « Jésus, tu es un bon Père, tu es mon Père céleste. Jésus, tu es un bon Maître. Jésus, tu dis même que tu es mon frère, tu as fait de moi, tu m'as inclus dans ta famille. Ben Jésus, je vais respecter ta parole. » Sexualité dans la vie de couple. Demandez à tous ceux qui ont eu le malheur de commettre un adultère ou d'avoir une inconduite sexuel, soit d'embrasser, soit de serrer dans les bras une autre femme que la sienne, de juste se permettre un petit geste, une petite action. Je suis tellement malheureux avec ma femme, je suis tellement malheureux avec mon mari, puis quand je suis avec cet autre homme-là ou cette femme-là, je me sens tellement bien, je suis comme quelqu'un qui est assoiffé dans le désert, puis que on me donne un verre d'eau, on me donne de l'affection, de l'attention. Je me sens tellement bien. Une fois que tu vas l'avoir bu, le verre d'eau, là, comment tu vas te sentir? Ça va être du vinaigre, ça va être de l'acide. établir nos limites, comprendre les limites de la parole de Dieu et s'engager. Un bon exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme de limites. Hein? Jean-Baptiste a dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Wow! Il ne fallait pas être peureux, hein? Il était le prophète de l'Éternel, le prophète qui annonçait la venue de Jésus, et lui, il disait, « Moi, je vais dire la vérité. » Il n'a pas eu peur, et ça lui a coûté la vie. Outre ce qu'il a dit à Hérode, Jean-Baptiste avait compris beaucoup sur les limites dans sa propre vie, dans son ministère. On ne l'a pas ici, mais je vais prendre le temps de lire. Vous avez le résumé ici, vous avez le verset. On va lire Jean 3, versets 27 à 30 sur sa perception de son ministère et des limites dans sa vie. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi est cette joie qui est la mienne, qui est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ces disciples qui viennent à lui et qui disent, « Hey, hey, on perd des adeptes, là. Avant, tout le monde était en arrière de toi, puis avec nous, puis là, ils vont tous à Jésus. » Quelle réponse merveilleuse de Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean voulait dire que tout vient de Dieu, que c'est lui qui établit les limites pour chacune de nos vies et c'est lui qui nous donne un rôle particulier. Et Jean comprenait son rôle, une limite dans le temps. Il savait qu'il était à l'avant-plan, il savait qu'il avait un rôle à jouer, mais que ce rôle-là allait être très court. Et c'était pour préparer le peuple à la venue de Jésus, se tenir dans les déserts, faire venir les foules, de dire, aplanissez les voies du Seigneur, le Messie, l'Éternel de l'Ancien Testament qui avait promis de venir, de visiter son peuple, il est maintenant là. Il savait qu'il y avait une limite au niveau de l'impact. Ses disciples ont dit, tous vont à lui. Lui, il dit, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Il savait que son impact allait être court. Et il se réjouissait que Jésus allait avoir l'attention. Une limite au niveau de son identité. La tête qui a pamphlé pour dire, je suis la vedette, Jésus attend un peu pour que j'en profite davantage. Il a dit tout le temps, je ne suis pas le Christ. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et Jésus a rendu un bel hommage à Jean-Baptiste en disant, « De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que lui. » Malgré la force de caractère de Jean-Baptiste, ayant un ministère, hein, il y avait un ministère avec la puissance de qui? Avec la puissance d'Élie. Wow, c'est un prophète tout à fait puissant, il y avait une humilité et cette capacité à accepter, à comprendre les limites de sa vie. Moi, la vie de Jean-Baptiste me donne le désir de suivre son exemple, comprendre mon rôle, reconnaître mes limites, puis accomplir la mission que Jésus me confie. Et vous, est-ce que Jean-Baptiste vous inspire? Peut-être vous dites, Richard, qu'est-ce qui est arrivé, lui? Il s'est fait couper la tête. N'ayez pas peur. Si vous prenez le rôle que Jésus a pour vous, Il y a très peu de chances que vous fassiez couper la tête à cause de ça. Quelle est notre mission? Jésus ne vous demande pas de tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Quand il vous demande de faire une chose principale ou deux, c'est quoi ces choses-là? Dans tous les aspects de la vie, Dieu met des limites pour le bien de ses créatures, spécialement de ses enfants qui suivent ses instructions. Il y a des limites à ne pas franchir parce qu'on pêche et on blesse les gens et on déshonore notre Dieu. Et il y a des limites à ne pas franchir parce qu'on va en dehors de ce que Jésus veut de nous. Et là, on va s'épuiser, on va se blesser, on va blesser les autres. Tellement intéressant de voir que Jésus avait une foule de limites. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que Jésus est mon personnage préféré de la Bible. Parce que avec les hommes, que ce soit avec Pierre, avec Paul, même en voyant leur qualité incroyable et comment ils étaient remplis du Saint-Esprit, faut toujours compenser, de dire... Pierre, tu sais, il n'était pas toujours sensible envers les gens. Puis Pierre, tu sais, il pensait qu'il était un peu meilleur. Moi, je vais y aller, Jésus. Puis... Mais avec Jésus, c'est Dieu qui se révèle. Dieu, avec la bonté, avec la douceur, tout en ayant la force et la puissance de Dieu. Et la vie de Jésus n'était que l'imitation. On lit dans Philippiens 2,7 que Jésus s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Jésus a été limité dans plein de domaines. Imaginez, Jésus, le Tout-Puissant, a été fatigué. Il dormait un peu n'importe où parce qu'il n'avait pas pu dormir la nuit d'avant. Puis il avait été sollicité toute la journée et là, dans le bateau, quand il y avait des vagues, Jésus tombait mort de fatigue, épuisé. Jésus avait faim. Jésus était contraint à la souffrance, aux limites de l'homme. Jésus a bien accepté les limites de temps. Pendant 30 ans, il a vécu dans l'anonymat. Pas de discours, pas de foule, pas de vie publique, pas de miracle. Et si Jésus avait été seulement un homme et que ça aurait été son plan de révéler, il me semble qu'à tout bout de champ, il aurait dit, « Mon Père, Dieu dans le ciel, l'Éternel, j'ai tout le temps, je veux y aller, ben, j'ai 20 ans, ben, ça fait 20 ans que j'attends, je suis prêt pour la mission. » Jésus était capable. Il était un avec son Père, il comprenait, il acceptait cette limite d'attendre. Et quand les temps ont été accomplis, il s'est révélé, et là, il y a eu un ministère public de 3 ans. Dieu le Père avait un temps précis pour l'œuvre de son Fils et il l'a accepté. Jésus a refusé de faire beaucoup de choses. Il a refusé de faire un miracle pour avoir du pain dans sa tentation au désert. Pendant 40 jours de ne pas manger, il l'a accepté. Jésus s'est limité au nombre de personnes qu'il pouvait voir. Constamment, il y a des gens qui voulaient voir Jésus et Jésus parfois disait non. Parfois, il se limitait. Souvent, il s'est fait demander de faire des miracles. Et ça aurait pu être tentant à chaque fois de cliquer des doigts puis de faire le miracle et d'impressionner les gens. Mais quand l'intention du demandeur était mauvaise, il ne cédait pas, il se limitait. Jésus a choisi seulement de prendre 12 apôtres. Il aurait pu en avoir 100, en avoir 1000, que ce soit impressionnant, sa gang est grosse, son affaire, ça marche. Et pourtant, à la fin de sa vie, Jésus a dit, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Quelle belle leçon pour nous. Si Jésus, qui était tout puissant, a accepté des limites et qu'à la fin, il dit, « Seigneur, mon Père, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Hey, » on peut, nous aussi, travailler, fonctionner à l'intérieur de ces limitations. Avez-vous le sentiment qu'il y a trop peu de temps, trop de choses à faire? Avez-vous des obstacles, des limites dans votre vie? Vous avez des obligations que vous ne voudriez pas avoir? Vous avez des problèmes de santé? Vous avez des personnes à prendre soin? Quoi faire? On a besoin de les accepter, ces limites-là. Et de voir Jésus au travers de ces limites-là. Il y a des saisons de la vie. Il y a des moments propices et d'autres moins. Une des étapes les plus prenantes que j'ai vues dans ma vie, et je ne le réalisais pas à ce moment-là, c'est quand tu es un jeune couple et que là, il s'ajoute un enfant, deux enfants, trois enfants, et que là, tu commences dans ta vie professionnelle, tu veux investir dans ton couple, tu prends soin de tes enfants que tu aimes, que tu ne veux pas négliger, et là, tu es sollicité de toutes parts. Et en plus de ça, on veut faire plein d'autres choses parce que tu es jeune, tu as 25, 30, 35. Et on se retrouve des fois à 40 ans, 50 ans. On se réveille un peu, on regarde ça en rétrospective et on se dit, on était fous. Le repos, puis de penser un peu à nous, on ne connaissait pas ça. Et parfois, il y a des séquelles au niveau du couple, il y a des séquelles au niveau de santé, de vie professionnelle. On a des limites. Et souvent, ces limites-là, quand elles ne dépendent pas de nous, c'est pas juste qu'on veut se mettre les pieds sur le pouf puis juste écouter la télé. Ces limites-là, ils viennent de Dieu et il faut les accepter. On a des limites aussi dans notre personnalité. Moi, le premier, on a tous des faiblesses, des tendances négatives, des domaines où on est incapable. Et si on arrête de vouloir passer par-dessus ces limites-là que Dieu est bien au courant, ben on va peut-être arrêter de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, faire l'œuvre de Dieu sans Dieu? C'est quand tu pries, puis tu demandes à Dieu d'agir, puis de diriger, puis il n'y a rien qui se passe, mais tu dis, on y va, puis on défonce des portes. Et après avoir défoncé des portes, bien des fois, et je l'ai fait souvent, on regarde en arrière, puis on dit, « Oh, je ne suis pas sûr que c'était vraiment la volonté de Dieu, ça, mais moi, je le voulais tellement. » On veut voir les limites comme des indications de Dieu. Parfois, il y a des choses qu'on a besoin de passer par-dessus. On se comprend, là, on fait la part des choses. On a besoin de voir les limites dans nos vies comme un signal, comme un message. Et on peut demander à Dieu d'enlever ces limites-là ou de nous en libérer. Les limites dans nos vies sont parfois comme la main d'un ami qui nous empêche d'en faire trop, de vouloir trop en blessant les gens qui nous entourent. Vous savez, nos limites sont une démonstration de notre humanité et d'une certaine impuissance face à ceux qui nous entourent. Vous savez, je peux donner des conseils à quelqu'un, mais je ne peux pas décider pour les autres. Je peux être là à côté en mettant la main sur l'épaule, puis en encourageant, mais je ne peux pas vivre la vie des gens à leur place. J'en ai pas cette capacité. peux pas être le sauveur de ceux qui m'entourent. C'est en dehors de mes limites, c'est en dehors de mes capacités. Et nos limites nous conduisent à Jésus. De dire, Jésus, tu vois, j'ai essayé, je veux aider telle personne, je veux intervenir dans telle situation, mais tu vois que c'est au-delà de mes capacités. Je n'ai pas la capacité de rentrer dans le cœur de quelqu'un et de changer son cœur. Je n'ai pas la capacité de rentrer dans la pensée de quelqu'un et de lui changer le mensonge pour la vérité. Il y a juste toi, Jésus, qui peut le faire. On a besoin de reconnaître ces limitations-là. Les limites, on a besoin de les voir comme un don et non pas comme une malédiction ou un empêchement. Les limites nous permettent de devenir ce que Jésus veut qu'on soit, ni plus ni moins. Vous connaissez Romains 12, 3, hein? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ne vous laissez pas aller au monde, par les influences. Et dans la parole vivante, j'aime beaucoup la façon que c'est dit. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. On a besoin de se connaître. Et vous savez, le temps et l'expérience nous aident à mieux se connaître. Et on a besoin de déterminer ses propres limites. Dieu veut qu'on se connaisse. Hein? Il fait tout pour qu'on le connaisse, lui. Mais en même temps, il veut tout faire pour qu'on apprenne à se connaître. Connaître les dons, les capacités. Il veut qu'on le serve en fonction de qui on est et des dons qu'il nous a donnés. Et ça, c'est un processus de croissance dans la vie chrétienne. C'est tout un exercice qu'on a besoin de faire dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Quelles sont mes limites? Quelles sont mes capacités? C'est quoi mes intérêts? Vous savez, dans la vie chrétienne, vous savez, on fait la vaisselle chez nous, hein? Puis j'aime pas tant que ça faire la vaisselle, mais avec le temps, c'est rendu que j'aime faire la vaisselle. Mais dans la vie chrétienne, dans nos grands mandats, si on n'aime pas faire la vaisselle, est-ce qu'on va toujours faire la vaisselle? Vous comprenez l'image? T'aimes pas ça? T'as pas plus d'intérêt? C'est une limitation pour toi. Ouais, mais il faut tout qu'on lave la vaisselle, puis il faut tout qu'on nettoie la cuve de toilette. Hein? On a besoin de comprendre nos limites, comprendre. C'est quoi le domaine, c'est quoi l'aspect de la vie chrétienne où mon cœur s'enflamme, où quand je fais cette chose-là, quand j'enseigne les enfants de 4 ans, 5 ans, mon cœur est tellement emballé, je suis content, je sens que j'ai un impact dans leur vie. Il faut qu'on voit nos capacités, il faut qu'on voit nos limites. En résumé, ce qu'on veut faire de notre vie, c'est d'accomplir ce joyeux service. Comprendre où Dieu nous appelle et où Dieu ne nous appelle pas. Et le résultat de ça, c'est d'être passionné. Vous savez, quand je vais à la pêche, je vais à des places où on n'a pas le droit même de moteur électrique. Il faut que je fasse un portage de mon canot puis de tout notre stock. Puis on part, puis je le fais comme si, quand je le faisais, j'avais 30 ans, presque 30 ans plus tard. Pourquoi? Parce que j'aime ça, je suis passionné. Et Dieu met des désirs dans notre cœur et Dieu mais aussi des limites qui font que non, c'est pas à toi de toucher à ça. Tu n'es pas bon, puis quand tu le fais, tu te sens forcé, obligé, la culpabilité. Donc, va pas là. Bénédiction des limites. De respecter ses limites personnelles, de se connaître. On peut aller aussi, en parlant de limites, dans un autre domaine. Nous, les limites face à ce qu'on accomplit pour Dieu. Et il y a aussi les limites quand les gens viennent vers nous. D'avoir un genre de cercle de protection. Quand on commence à mieux se connaître, on peut vivre qui on est. Et là, on arrive au point où on fait respecter ses limites. Et ça, c'est tout un défi. Vous avez le droit. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Mais vous avez le droit de décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et quand quelqu'un va venir vers vous et dit, « Le Seigneur m'a dit que tu dois faire ça dans l'Église » ou « Le Seigneur m'a dit » ou « Je suis convaincu que ton don, c'est ça » puis « J'ai besoin de quelqu'un dans ce domaine-là, justement » puis « C'est ça que tu vas faire. » Est-ce que vous avez le droit d'établir vos limites? Est-ce que vous avez le droit de dire « Non » Le Seigneur ne veut pas que vous le serviez en subissant, en endurant, en supportant. Ça, c'est comme rouler avec un pneu qui est dégonflé. Tu ne feras pas longue route. Ça va être dur, ça va sentir le brûler, le caoutchouc, puis à un moment donné, ça va lâcher. Plein de gens autour de vous voudront dépasser les limites que tu établis dans ta vie. Ces gens, parfois, vont être encourageants au début, mais après, ils peuvent être insistants, contrôlants et dominateurs. Ils vont vous forcer. Mais ces gens pourront forcer quelqu'un, seulement celui qui le permet. Personne ne peut me forcer à faire une chose. Si une personne me force à faire quelque chose et que je le fais, c'est parce que je lui permets. Et dans la maturité chrétienne, dans notre service, dans notre vie, qu'on veut adorer Dieu, on a besoin de dire non à des gens. On veut mettre une limite face aux personnes envahissantes. Et en même temps, on veut garder un climat d'amour et de respect. Et je me souviendrai toujours, ça va assez loin. En 1985, ça faisait 2 ans, j'étais chrétien, et on avait un couple d'amis à Québec. Je vais changer le nom, je vais l'appeler Jean-Pierre. Et Jean-Pierre était directeur de l'école chrétienne à Québec. Il était sur le conseil de l'Église de Québec. Et il y avait une réunion de prière à tous les matins pour l'école chrétienne. Dans ce temps-là, on était tous zélés. Hein? Ils travaillaient comme des bombes, mais ils arrivaient une demi-heure tous les matins, puis Jean-Pierre animait la réunion de prière. Jean-Pierre était tous les cultes du dimanche matin. Il était là. Le mercredi soir, il était toujours là. Mais Jean-Pierre, qui faisait presque plus de sport, un jeune homme de 30 ans, a eu l'occasion de jouer au hockey avec ses chums. Non-croyants qui voyaient presque plus, mais c'est quand que étaient ces 8 matchs en ligne? Le dimanche soir, toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez, en 1985, avec toutes ses responsabilités, Jean-Pierre est allé, s'est inscrit, a fait toute la saison. Et au bout de 3-4 semaines, le pasteur principal, qui était un homme de Dieu, mais un homme vraiment impressionnant, moi je le regardais comme ça, là, il est venu voir Jean-Pierre et ça m'a marqué parce que j'étais à côté de lui. Le pasteur principal lui dit, « Jean-Pierre, il me semble qu'on ne te voit plus le dimanche soir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu connais ton rôle, l'impact que tu as. » Et là, Jean-Pierre lui a dit, « Monsieur le pasteur, vous savez, je reste juste à côté de l'église, puis on dirait que l'église, moi, je suis toujours là. » Et là, il a mentionné toutes les choses. Puis, vous savez, j'ai besoin de faire du sport. J'aime le hockey, puis j'aime les gens. Et moi, je me sens tout à fait libre de manquer 8 dimanches soirs pour aller jouer au hockey. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment abasourdi. Un, à cause du courage qu'il avait. Et moi, si mon pasteur, cet homme-là, m'avait dit qu'il fallait que je sois là tous les dimanches soirs, j'aurais rampé là. Ah, j'aurais tout fait pour être là. Mais il était capable d'établir ses limites. Il savait que ce qu'il faisait, c'était pour Dieu et qu'il était pleinement engagé et qu'il ne laisserait pas une personne lui imposer des limites qui n'étaient pas les siennes. Les gens qui sont plus faibles un peu dans leur personnalité, dans leurs limites personnelles, ils se sentent obligés de faire ce que les autres veulent, même quand ils n'en ont pas le désir. Avez-vous parfois le sentiment de vous faire imposer des choses que vous ne voulez pas? Aidez-vous des gens que vous n'avez pas vraiment le goût d'aider, mais en même temps, on est chrétien, puis faut qu'on aime notre prochain, puis on fait les choses par culpabilité, on le fait par peur. Qui ici peut tout faire? Qui peut aider tout le monde? Personne. Et le Seigneur veut que vous ayez de l'amour. Le Seigneur veut que vous aidiez votre frère, votre sœur. Mais parfois, ce ne sera pas possible. Et quand votre cœur dit, « J'ai pas le temps, je peux pas, c'est impossible, ça va mettre mon épouse dans le trouble, il va y avoir des manquements au niveau de ma famille », ce n'est pas possible, il faut qu'on soit capable d'établir nos limites. Si l'on veut, à long terme, continuer d'aimer et de servir Dieu et les gens, on doit établir nos limites pour nous-mêmes. On doit trouver nos priorités. Vous savez, prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Si on n'établit pas nos limites pour se respecter, pour prendre soin de nous à l'occasion, on ne pourra plus prendre soin des autres. Vous avez le droit d'établir vos limites. Vous avez le droit d'avoir des convictions puis de dire, « Seigneur, j'ai prié là-dessus, j'en ai parlé, j'ai lu dans ta parole et je suis parfaitement à l'aise à ne pas contribuer à ce ministère chrétien, à ne pas aller aider ce frère dans son déménagement, peu importe les choses. Vous avez le droit, et ça va vous permettre à long terme de dire, Seigneur, je me sens vraiment interpellé, j'ai le goût, j'ai le désir de m'impliquer dans tel ministère, d'aller passer du temps avec ce frère, avec cette sœur. Le résultat, bien comprendre ses limites, celles que Dieu a établies, ça va produire une joie, un contentement au lieu d'un tiraillement puis d'une insatisfaction. Pour bien des gens qui sont ici, prendre position va être un combat. Prendre position, dire non aux gens qui ont toujours compté sur vous, ça va être une lutte incroyable. Avant même de dire non à la personne qui vous demande, vous entendez sa réponse. Vous êtes en train de faire tourner la cassette de son mécontentement, toutes les choses qu'il va vous dire. Et là, vous dites, non, je peux pas dire non. Le Seigneur Jésus veut que vous vous teniez debout. Le Seigneur Jésus veut parfois que vous disiez non à certaines occasions, non à certaines personnes, pour pouvoir dire oui à lui et dire oui aux bonnes œuvres que Jésus a préparées pour vous. Faire des changements dans ce domaine-là, commencer à se respecter, à établir nos limites, c'est extrêmement difficile. Les gens se sont habitués à ce que vous soyez toujours là pour eux, ramasser leur peau cassée. Eux, ils ne prennent pas soin de leurs choses, négligents, un peu d'irresponsabilité, et ils vous demandent de venir tout ramasser, puis vous avez le droit de dire non. Non, si tu veux, je vais t'aider, je vais te montrer comment faire. Je vais t'aider à faire face aux conséquences de tes mauvais choix pour que tu apprennes à faire des bons choix et que tu vives dans la joie et la liberté que Dieu veut donner. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez des petits tiraillements? Mais comment je vais faire ça? Est-ce que je vais avoir le courage? Le Seigneur, il veut que vous vous teniez debout. Et si vous êtes convaincu que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'établir vos limites, vous allez avoir cette force. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, dans votre entourage, qui manquent de respect envers vous, qui se permettent d'être durs, de vous crier après, de vous insulter? Et dans la dynamique qui s'est établie au fil des ans, vous êtes le dominé et lui, il est le dominant. Puis, c'est si simple d'établir ses limites en disant, je m'excuse, mais je trouve ça inacceptable que tu me parles comme ça. J'aimerais que tu me démontres un peu plus de respect. Est-ce que c'est biblique? Oh, dans une parabole, Jésus a dit que si on se fait donner une claque, on présente l'eau de joue. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il était devant Hérode et que, devant le souverain sacrificateur plutôt, et qu'il a simplement répondu et qu'il a reçu un soufflet, une claque au visage du serviteur, du souverain sacrificateur? Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi me frappes-tu? Tu es là pour me juger selon la loi et tu brises la loi en me frappant. Jésus a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Donc, Jésus est complet. Et Jésus savait établir ses limites. Et vous, comme chrétien, vous ne manquez pas d'amour, vous ne manquez pas de compassion, puis vous n'êtes pas dur quand vous établissez vos limites. Et ça, c'est ce qu'on va vivre dans notre église locale, dans votre famille spirituelle ici. Chaque groupe et chaque personne, on a des limites données par Dieu. Et il n'y a personne qui peut tout faire. Et Dieu ne s'attend pas à ce qu'un enfant de Dieu puisse tout faire. Nos limitations et nos capacités restreintes sont un don de Dieu pour faire ce qui est important, pour être aiguillonné à faire ce que Dieu veut de nous. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à une autre. Et il faut avoir la sagesse et le discernement pour savoir c'est à quoi qu'on veut dire oui. L'œuvre de Dieu est importante. L'œuvre de Dieu est primordiale dans nos vies. Autant ce qu'on accomplit dans notre foyer avec conjoint, conjointe, avec les enfants, que dans l'église locale. Et le but d'établir des limites, c'est pas que on fasse plus rien. Il y en a qui passent de tout faire à plus rien, hein, puis on peut juste leur demander d'amener leur lunch pour... Non, si la nourriture est pas là, j'y vais pas, à cette heure, je fais plus rien, on a abusé de moi. Le but, c'est pas qu'on fasse plus rien, c'est qu'on fasse les bonnes choses. Le but, c'est qu'on ait de la joie, de la passion et une conviction dans notre service pour notre Dieu. Parce qu'on sait que c'est ce que Dieu veut de nous, selon les limites qu'il a mis dans nos vies. Paul a parlé des limites dans son ministère, et je vais terminer en lisant dans 2 Corinthiens chapitre 10. OK, oui, c'est vrai. 2 Corinthiens 10, excusez-moi, je pensais que le verset était là. 2 Corinthiens 10, verset 13, et je vous lis, ou encore vous pouvez suivre dans votre Bible. Paul dit, « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a donné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. » Donc, Paul, là, en répétant plusieurs phrases, il était en train de dire, « Corinthiens, vous êtes en train de dire que je suis pas un bon prédicateur puis que j'ai pas d'autorité sur vous, mais je peux vous dire que quand je suis venu à Corinthe, qu'on a établi cette église-là et qu'on en a pris soin, on était à l'intérieur du champ d'activité que Dieu nous avait confié. Et même si vous êtes un peu rebelle, si vous nous rejetez, on a la pleine conviction que c'est là qu'on doit être et c'est là qu'on doit œuvrer. Et c'est ce que fait ces convictions, c'est ce que fait de connaître nos limites, de savoir dire non à certaines choses, non à certaines personnes, pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Paul, tout comme Jean-Baptiste, comprenait bien les limites de sa vie, les limites de son ministère, et il s'en réjouissait. Et pour nous, mon désir, ma prière, c'est que Dieu nous donne une bonne perception des limites. Moi, je peux vous dire que il y a même pas 10 ans, j'aurais pas été capable de vous enseigner là, 1/10 de ce que je vous ai enseigné parce que c'était pas dans ma tête, c'était pas dans mon cœur. Je pensais que toute personne qui venait à moi et qui disait « Richard, faut que tu fasses ça. Oh, tu penses, Seigneur, c'est toi qui l'envoies. Oh, je suis pas convaincu, mais bon, ben, je vais faire ce qu'il me dit. » Je pensais aussi que je pouvais faire plein de choses dans la vie chrétienne que j'aimais pas, puis qui étaient pénibles, puis que je me sentais pas bon dans ça, puis, mais il fallait bien que je le fasse parce que je voulais être un serviteur. Je voulais pas juste faire les choses que j'aimais. Je voulais être là, puis sacrificiel, puis mourir à moi-même. Puis oui, il y a une place pour mourir à soi, mais on doit mourir pour les bonnes choses. Donc, pour moi, ça a été tout un processus. Mais ça m'a permis d'avoir une protection face à ce qui pouvait détruire ma vie spirituelle, mon service. Quand on comprend bien cet enseignement sur les limites, ça nous permet de se donner avec joie, ça permet de faire les bonnes choses que Jésus a préparées, ça permet de regarder en arrière 5 ans, 10 ans plus tard et de dire, j'ai fait les bons choix, j'ai accompli ce qui était dans mon champ d'activité et j'ai vraiment cette conviction que je me suis donné à ce que Jésus voulait pour moi. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci que tu nous donnes des limites. Tu nous dis de ne pas dépasser, de ne pas franchir cette ligne. Merci pour la protection que tu nous donnes, Jésus. Seigneur Jésus, merci aussi parce que tu mets des limites naturelles dans nos vies quant à nos capacités physiques, à nos capacités intellectuelles, à la force, à l'énergie qu'on a. Par ça, tu nous alignes vers ta volonté propre pour nous. Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous cette compréhension spirituelle pour qu'on sache qu'est-ce que tu veux de nous. C'est quand qu'on te sert et qu'on a cette joie du Saint-Esprit profonde. Seigneur Jésus, on veut que tu nous donnes du discernement pour qu'on puisse découvrir et développer ces certitudes sur les limites qui sont bonnes pour nous. Seigneur Jésus, aussi, on veut apprendre. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta douceur. Mais Seigneur, apprends-nous à mettre des limites face à des gens, des frères, des sœurs ou peut-être des non-croyants qui sont là dans notre entourage et qui nous attaquent, qui nous blessent. Seigneur, tu vois ces gens qu'on laisse rentrer dans nos vies, nous culpabiliser, nous forcer. Seigneur Jésus, donne à chacun la force nécessaire pour dire non, pour mettre ses limites. Seigneur Jésus, tu nous permets ces choses-là. Tellement longtemps, Seigneur Jésus, j'ai cru que je devais juste laisser faire pour être un bon témoignage pour toi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour les limites. Renouvelle notre intelligence face à ce domaine. On te le prie en ton nom. Amen. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.